connecté avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité. Vous êtes déjà très nombreux au standard et sur la page Facebook de l'émission pour commenter cet accord conclu en République démocratique du Congo entre la majorité présidentielle et une frange de l'opposition. Un accord, vous le savez, censé sortir le pays de la crise politique. Il prévoit notamment l'organisation de l'élection présidentielle au mieux en avril 2018, alors que le scrutin, je vous le rappelle, devait se tenir le mois prochain. En attendant, donc, cette élection en avril 2018, le président Joseph Kabila pourra rester en fonction et durant cette période de transition, le Premier ministre sera issu de l'opposition, l'opposition qui a accepté de participer au dialogue national. Alors que pensez-vous justement de cet accord politique ? Permettra-t-il d'aplanir les tensions, d'autant que les deux principales formations de l'opposition rejettent les conclusions de cet accord et continuent d'exiger le départ de Joseph Kabila à la date du 19 décembre, dernier jour de son mandat ? Nous allons évidemment commenter cette actualité ensemble. 33 9 693 693 70. Les réseaux sociaux, notamment la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI appelle sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction d'RFI pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer avec les déboires judiciaires du ministre des Finances, ce qui provoque d'ailleurs en Afrique du Sud une crise politique. Gilbert, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous appelez de Pointe-Noire. On vous écoute.
Oui, Pointe-Noire au Congo-Brazza. Au fait, le ministre des Finances d'Afrique du Sud a été poursuivi pour fraude. Pourquoi certains craignent la dégradation de la note souveraine du pays ?
Bonne question. C'est vrai que ça fait des mois que le ministre est dans le collimateur du parquet sud-africain. Il est désormais poursuivi par la justice pour fraude. On lui reproche d'avoir autorisé le départ à la retraite anticipée d'un haut fonctionnaire. Bonjour Alexandra Branjon.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes la correspondante permanente d'RFI en Afrique du Sud. Avant d'aborder les craintes d'une possible dégradation de la note souveraine de l'Afrique du Sud par les agences de notation, on peut dire, Alexandra, que cette affaire, cette annonce, a suscité une véritable crise politique sur place.
Oui, une véritable onde de choc dans le pays parce que le ministre des Finances, Pravin Gordhan, est considéré comme un pilier de l'économie sud-africaine. C'est vraiment le fer de lance de la lutte contre la corruption et l'abus de fonds publics. Je vous donne un exemple. Pravin Gordhan s'est notamment opposé au projet nucléaire du gouvernement, un projet qui est cher au président, mais qui est jugé trop coûteux. Et donc, ses prises de position lui ont valu pas mal d'ennemis. Alors, tous les observateurs estiment que ces accusations de fraude contre Pravin Gordhan ne tiennent pas la route et ne sont qu'un prétexte justement pour l'évincer et pouvoir contrôler librement le budget. Pourquoi ça inquiète ? Parce que politiquement, cela montre qu'il y a des factions qui s'opposent au sein du gouvernement, qu'une de ces factions, dont la santé économique du pays n'est pas nécessairement la priorité, est en train de prendre le dessus. Économiquement, ça veut dire que des décisions budgétaires risquées pour le pays risquent d'être prises.
Ouais, ce qui nous amène donc à la question de Gilbert sur les agences de notation. Ce sont elles, rappelons-le, qui notent la solvabilité des États. Est-ce qu'à cause de ce scandale, une dégradation de la note souveraine de l'Afrique du Sud est à craindre ?
Oui, parce que donc le contexte économique n'est pas bon. Déjà, la croissance cette année ne devrait pas dépasser les 0,4%. Et si en plus de ça, le contexte politique est instable, si le pays donne l'impression qu'il y a des luttes au sein du gouvernement, ça n'est pas un bon signe pour les agences de notation. Pravin Gordhan a la confiance des marchés financiers, des investisseurs. Il est vu comme celui qui essaye de limiter le déficit budgétaire, c'est-à-dire les dépenses du gouvernement. Et s'il n'est plus là, ou s'il n'est pas soutenu par son gouvernement et par le président, eh bien, cela jette des doutes sur la capacité ou la volonté de ce gouvernement de contrôler ses dépenses. Et si le ministre des Finances est évincé, eh bien, ça laisse le champ libre à des abus des dépenses publiques.
Ouais, Gilbert, vous avez une autre question concernant cette affaire.
Oui, j'ai une autre question. Comment ces agences font pour apprécier les économies des États ?
Ouais, des agences qui notent la capacité des États à rembourser ou pas leurs dettes en temps et en heure. Alexandra Branjon, sans nous donner un cours d'économie en quelques mots, effectivement, comment ces agences font-elles pour valoriser ou dégrader les notes des pays ?
Oui, parce que je ne suis pas économiste, mais en gros, les agences de notation donc évaluent le risque d'un emprunteur, c'est-à-dire sa capacité à rembourser ses dettes. Elles mettent une note qui va ensuite servir aux investisseurs à évaluer les risques d'investissement dans tel ou tel pays. Alors, qu'est-ce que les agences regardent? Le déficit budgétaire de l'État. Est-ce que l'État dépense plus qu'il ne gagne? Quels sont les chiffres de la croissance? Est-ce que l'économie est en train de repartir? Quel est le taux de chômage? Donc, dans ce cas-là, pour le gouvernement sud-africain, il dépense nettement plus que ses revenus ne lui permettent. Il a un déficit budgétaire important. Et cette croissance, et puis la croissance de cette année, donc je le disais, à 0,4%, va être quasi nulle. Donc, les agences, dans ce cas après précis de l'Afrique du Sud, les agences doivent revenir le mois prochain pour évaluer ce contexte économique et décider s'il dégrade ou non la note souveraine. Par exemple, Standard & Poor's a placé l'Afrique du Sud à un cran au-dessus du statut à risque, ce qu'on appelle le junk status, qui est un statut où là, plus personne ne va vouloir venir investir en Afrique du Sud. Donc, pour en revenir à Pravin Gordhan, que ce soit les observateurs politiques ou économiques, tout le monde est d'accord pour dire que poursuivre le ministre des Finances maintenant, dans ce contexte économique, est suicidaire, surtout si ces accusations ne tiennent pas la route.
Effectivement, s'il s'agit d'accusations essentiellement politiques. Affaire à suivre, Gilbert. On a répondu à vos questions, tout est clair?
Tout est clair, merci Juan.
Eh bien merci surtout Alexandra Brangeon, la correspondante d'RFI en Afrique du Sud, à qui je souhaite également une bonne journée. 10h16 ici à Paris, ce sont vos questions. Vous souhaitez un complément d'information, mieux comprendre, mieux décrypter les sujets que vous entendez dans nos différents journaux? Eh bien vous êtes les bienvenus, vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre tout au long de la journée. Le standard reste ouvert, 33 9 693 693 70. Bonjour Gaël.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes à Libreville au Gabon et vous avez des questions concernant les tensions de plus en plus vives entre l'Inde et le Pakistan.
Oui Juan, les tensions sont accrues ces derniers mois-ci dans le Cachemire. Les tensions discutées entre le Pakistan et l'Inde. Je voudrais savoir qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette recrudescence des violences dans la région. Mais aussi savoir si par exemple l'ONU a un plan comme ça pour mettre fin à cette crise qui dure déjà un peu plus de 70 ans maintenant.
70 ans, oui, depuis 1947, depuis l'indépendance et le partage du sous-continent. Ces deux pays, l'Inde et le Pakistan, se disputent le Cachemire. Bonjour Sébastien Farcy.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant des RFI en Inde. Que se passe-t-il depuis maintenant 3 mois? Expliquez-nous pourquoi les tensions entre ces deux pays se sont violemment envenimées.
Il y a deux niveaux en fait pour comprendre ce conflit. En fait, c'est un conflit à trois bandes. On a l'Inde, le Pakistan et le Cachemire au milieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé vraiment en juillet? On parle vraiment depuis juillet que la situation s'est enflammée dans le Cachemire indien. Cela a commencé le 8 juillet particulièrement quand l'armée a tué l'un des combattants indépendantistes les plus célèbres de ces dernières années, Burhan Wani. Il était le commandant du groupe indépendantiste du Hizbul Mujahideen. Il n'avait que 21 ans, mais pour la génération de jeunes Cachemiriens indiens, il était l'un des symboles de la lutte contre la domination indienne dans la région et contre son intense militarisation. Ce militant était ainsi l'un des premiers, par exemple, à porter cette lutte sur les réseaux sociaux. Alors, dès l'annonce de sa mort, des milliers de personnes sont descendues. On a eu affaire à des manifestations très violentes, une répression assez forte et sanglante de l'armée des paramilitaires indiens sur place, avec entre autres l'utilisation de billes de plomb qui blessent grièvement. Et je disais qu'il y a un deuxième niveau, bien sûr, parce que de l'autre côté, le Pakistan essaye en quelque sorte d'enflammer ou de continuer de soutenir ces indépendantistes, cette révolte indépendantiste, et envoie, en tout cas essaye de faire traverser des militants, des combattants armés à travers la frontière, ce que dénonce New Delhi. Et il y a eu depuis plusieurs mois aussi des attaques contre des camps militaires qui, selon New Delhi, auraient été perpétrées par des combattants venant du Pakistan. Donc on a en effet une affaire à trois bandes. D'un côté, une revendication des Cachemiris indiens d'avoir plus d'autonomie, voire une indépendance. Et de l'autre, eh bien, un Pakistan qui soufflerait sur les braises avec l'envoi de ses militants armés.
Effectivement, il faut voir la carte de cette région en tête. Le Cachemire coupé en deux, le nord contrôlé par le Pakistan, le sud par l'Inde. Et au milieu, entre les deux, il y a une ligne de contrôle, une ligne de cessez-le-feu qui est très longue, je crois plus de 700 kilomètres. Et effectivement, l'Inde accuse le Pakistan d'abriter de l'autre côté, donc de cette fameuse ligne de cessez-le-feu, des rébellions sécessionnistes, de soutenir le Cachemire, le terrorisme. Gaël nous posait une question intéressante sur l'ONU. On sait que l'ONU, en tout cas des observateurs, sont sur le terrain depuis plusieurs décennies. Quelle est la marge de manœuvre de Ban Ki-moon des Nations Unies sur ce dossier? On a l'impression qu'elle est très limitée finalement.
Oh, elle est très limitée, elle est quasiment maintenant inexistante, on va dire, parce que l'ONU en fait a été appelée à s'immiscer, ou en tout cas à intervenir dans ce conflit dès le début du conflit en 1947, juste au lendemain de l'indépendance, donc de la décolonisation par le Royaume-Uni. À ce moment-là, bien sûr, dès ce moment-là, en fait, la région était disputée. Une région à majorité musulmane, le Pakistan, l'Inde le voulaient, les Cachemiris voulaient rester indépendants, soit. Il y a eu une première guerre en 1947, suite à laquelle l'ONU a été appelée pour essayer de calmer la région. Une résolution a été adoptée en 1948 qui demandait la démilitarisation de toute la région pour organiser un référendum, mais ce référendum n'a jamais eu lieu, justement parce que les deux parties ne veulent pas démilitariser la région, de peur que, bien sûr, l'autre pays en profite. Du coup, on est dans un statu quo. On a une ligne de contrôle, comme vous disiez, qui n'est reconnue par personne, qui est une ligne de facto, qui est née, en fait, une frontière qui a divisé le Cachemire en deux suite à la guerre de 47 et puis aux différents conflits qui ont suivi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que fait l'ONU? Eh bien, rien de particulier, si ce n'est avoir cette équipe d'observation, de respect du cessez-le-feu qui est basée à Srinagar et au Pakistan aussi, dans le Cachemire pakistanais, et qui observe juste que les deux parties ne viennent pas traverser cette frontière, qu'on respecte un peu ce statu quo. Et cela, en fait, est assez frustrant, en tout cas de la part de ceux que j'ai vus au Cachemire indien, qui disaient l'ONU est ici, mais n'intervient pas. Et d'ailleurs, ils ont dit eux-mêmes que les problèmes du Cachemire indien d'aujourd'hui étaient un problème interne à l'Inde, et c'est ce que l'Inde veut dire aujourd'hui, et c'est ce que l'ONU respecte. Mais c'est un peu frustrant pour la population du Cachemire indien, face à toutes ces violences, plus de 90 morts en 3 mois d'insurrection, de voir que l'ONU n'agit pas et reste en fait neutre dans ce conflit, dans ces exactions qu'ils dénoncent, alors qu'ils ont des bureaux juste à Srinagar et qu'ils voient ce qui se passe sur le terrain.
L'ONU donc spectatrice de ces derniers événements. Ban Ki-moon en tout cas est attendu en Inde et au Pakistan en novembre. C'est une visite qui est prévue de longue date et on verra si cette visite est avancée comme le souhaiterait le Pakistan. Sébastien Farcy, merci d'avoir été avec nous. Gaël, on a répondu à vos questions?
Oui, parfaitement. Merci à vous.
Merci. Eh bien, merci de votre fidélité. Bonne journée à Libreville, 33 9 693 693 70. Bonjour Yacouba.
Bonjour Juan. Bonjour à tous.
Vous êtes au Sénégal, vous nous appelez de Dakar et vous avez une question concernant l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président burkinabé, Thomas Sankara.
Exactement Juan. Je voudrais juste savoir pourquoi la justice burkinabé demande aux autorités judiciaires françaises la levée du secret défense sur le dossier de Thomas Sankara.
Ah, la justice burkinabé qui veut déterminer effectivement si la France a joué un rôle dans l'assassinat de l'ancien président. C'était il y a 29 ans, quasiment jour pour jour. Hein. C'était le 15 octobre 1987. Bonjour Yaya Boudani.
Bonjour Juan, bonjour Yacouba.
Vous êtes le correspondant des RFI à Ouagadougou. On sait que la veuve de l'ancien président avait réclamé à la France sans succès la levée du secret défense. C'est donc désormais la justice du Burkina Faso qui fait la demande.
Oui Juan, la justice demande de lever le secret défense pour voir si la France n'est pas impliquée dans l'assassinat de Thomas Sankara. Alors vous savez que les rapports avec la France étaient pour le moins difficiles. Le capitaine Thomas Sankara, dès sa prise du pouvoir, n'a pas caché ses intentions. Le père de la révolution burkinabé avait posé des actes qui commençaient à inquiéter les autorités françaises de l'époque. En 1986, le Burkina avait parrainé une résolution de l'ONU en faveur de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Ce qui avait mis hors de lui Jacques Chirac, alors le premier ministre, qui disait que ça n'était trop et qu'il fallait envisager une réduction de l'aide au Burkina Faso pour l'année 1987. Et puis, après le coup d'État d'octobre 1987, la coopération de la France avec le nouveau régime de Blaise Compaoré n'est pas remise en cause. Elle s'est même intensifiée alors que le Parlement européen avait suspendu toute aide au pays.
Ouais. Alors, c'est vrai que de nombreux partisans de Thomas Sankara et plusieurs chercheurs pensent que la France a, de près ou de loin, pris part au coup d'État au cours duquel Thomas Sankara a été assassiné.
Étant donné que Blaise Compaoré, dès sa prise de pouvoir, a envoyé très vite des signaux à la France, notamment quand le Burkina s'est abstenu dans ce vote à l'ONU sur la Nouvelle-Calédonie. Alors, plusieurs chercheurs pensent d'ailleurs que la France a souhaité l'éviction de Sankara. Elle a sans doute fait plus par des amis interposés. En tout cas, c'est ce que pensent de nombreux analystes. Et des regards se sont tournés vers l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny et le Togolais Gnassingbé Eyadema. Alors, on se rappelle encore cette visite du président François Mitterrand à Ouagadougou en 86 et son agacement par les discours anti-impérialistes de Thomas Sankara. Alors, certaines sources affirment que Mitterrand aurait même envoyé des demi-chefs pour prévenir le président Sankara qu'il courait de grands risques à l'époque. Donc, c'est donc pour avoir des informations sur les relations entre la France et le nouveau régime, c'est-à-dire celui de Blaise Compaoré, et voir si les autorités françaises ne lui ont pas apporté un soutien quelconque lors du coup d'État d'octobre 87 qui a porté au pouvoir Blaise Compaoré.
On verra donc si la France accepte donc de lever son secret défense. Merci à vous Yahya Boudani pour toutes ces explications. Yahya, bonne journée à Dakar. Dakar, vous écoutez RFI sur les 92 FM. Venance, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Brazzaville et vous avez des questions concernant la Thaïlande après le décès du roi Bhumibol.
Oui, effectivement, j'ai des questions concernant la Thaïlande. Bon, on a tous appris la nouvelle du décès du roi et également le fait que son fils demandait un délai d'une année avant de monter sur le trône. Moi, je voulais savoir pourquoi, d'autant que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire contemporaine du pays.
Ouais, c'est vrai que le prince héritier a demandé un délai avant de prendre la succession. Bonjour Eugénie Mériot.
Oui, bonjour.
Vous êtes spécialiste de la Thaïlande, enseignante à Sciences Po Paris. Est-ce que l'héritier serait finalement réticent à devenir roi? Pourquoi demander un délai?
Alors tout d'abord, je voudrais juste corriger une petite inexactitude. C'est en effet, il a demandé un délai avant de monter sur le trône, mais ce n'est pas un délai d'une année. C'est un délai pour l'instant de quelques jours.
On ne sait pas combien de jours. Il n'y a pas eu énormément de précision là-dessus, non?
Pas de précision, mais en ce qui concerne l'année, c'est pour le couronnement. Et donc ça, c'est très courant dans l'histoire de la Thaïlande d'avoir le couronnement qui a lieu bien après, une à avoir 4 ans après le moment où le successeur monte sur le trône. Voilà, donc ça, c'était juste pour la petite précision.
Mais vous faites bien.
Alors pour la réponse à cette question, donc tout d'abord, je pense qu'il convient de replacer la succession dans son contexte. Le prince héritier, il a été désigné comme tel en 1972, donc ça fait 44 ans qu'il a été désigné par son père comme le successeur. Le choix du successeur, c'est tout à fait discrétionnaire, donc c'est le roi et lui seul qui choisit son successeur. Donc il y a des règles très très claires en ce qui concerne la succession en Thaïlande. Or, ça fait depuis près de 20 ans, et surtout depuis le coup d'État de 2006, qu'il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles le prince serait écarté du trône au profit de sa sœur cadette, la princesse Sirindorn. Alors, il est vrai qu'étant donné le caractère du prince imprévisible, excessif, souvent très peu regardant de la loi et de la Constitution, un tel scénario aurait sans doute été préférable, donc d'avoir la princesse et non pas le prince.
Mais ce n'est pas le cas. Là, pour le coup, c'est toujours le prince héritier qui est censé succéder à son père.
Voilà, et donc lorsque le 13 octobre dernier, alors qu'il devait être proclamé roi dans la session extraordinaire de l'Assemblée, il a demandé un délai, ça a surpris tout le monde et les rumeurs se sont ravivées de plus belle. Et surtout qu'un régent a été nommé, c'est le président du conseil privé du roi, et c'est un ennemi du prince, donc c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Alors quelles sont les raisons? Il y a plusieurs raisons possibles à la demande de délai par le prince. Premièrement, il voulait construire une image d'un futur roi complètement désintéressé du pouvoir, humble, qui s'unit dans le deuil à son peuple, etc. Deuxièmement, de façon plus pragmatique, il voulait se donner du temps pour régler ses affaires personnelles avant de monter sur le trône, notamment déménager de Munich, parce qu'il habite à Munich en Allemagne depuis plusieurs années, et donc ça nécessite tout de même quelques arrangements pour revenir en Thaïlande.
On a 30 secondes, à peine.
Voilà, donc maintenant, la question qui se pose, c'est celle du calcul qui a été le sien lorsqu'il a demandé ce délai. Est-ce qu'il ignorait les provisions de la Constitution qui désignaient le régent automatiquement son rival comme régent, ou alors il s'en désintéressait complètement? Dans tous les cas, l'attitude du prince nous invite donc à considérer avec un sérieux doute les capacités du prince,
bien sûr,
du futur roi,
le prince qui est plus connu pour ses phrases que pour ses responsabilités politiques. Merci d'avoir été avec nous.
Priorité santé.